Les attitudes sublimes. Les enseignements du Bouddha à propos des qualités habiles de l'esprit se présentent sous forme de groupe. 5 à propos de ceci, 6 à propos de cela. Même la qualité qui est pertinente dans tous les cas, sati, est toujours enseignée dans le cadre de différents groupes. Tout d'abord, elle est associée à l'attitude d'alerte. Sati signifie conserver quelque chose à l'esprit, comme lorsque nous nous rappelons continuellement de rester avec la respiration quand nous méditons. L'attitude d'alerte signifie remarquer ce qui se passe, être en attitude d'alerte vis-à-vis de ce que nous faisons, et au résultat de ce que nous sommes en train de faire. Pour que Sati soit efficace dans l'entraînement de l'esprit, il doit toujours être associé à l'attitude d'alerte. Et ces deux facteurs doivent également jouer un rôle au sein de groupes plus grands. Ils font partie des 5 forces, des 7 facteurs d'éveil, et du noble octuple sentier. La raison pour laquelle le Bouddha enseigne ses qualités habiles sous forme de groupe, c'est parce que les qualités malhabiles se présentent aussi sous forme de groupe. Les 3 racines de ce qui est malhabile, l'avidité, l'aversion et l'illusion, peuvent donner les 5 empêchements, les 7 obsessions, les 10 entraves, les 108 formes de désirs ardents. Elles croissent de façon exponentielle. Aucune qualité habile ne peut les combattre à elle seule. Pour être efficace, pour jouer son rôle dans l'entraînement de l'esprit tout entier, chaque qualité habile doit être renforcée par d'autres qualités. Dans le même temps, chaque qualité doit être compensée par d'autres pour s'assurer qu'elle ne va pas trop loin et qu'elle ne finit pas comme un outil pour les forces d'opposition. C'est la raison pour laquelle le Bouddha a laissé des enseignements comme les 4 bases du succès, les 7 facteurs d'éveil et les 4 attitudes sublimes. Ce sont des armées de qualité habile pour livrer bataille aux armées de Mara. Lorsque vous voyez les différentes listes placées côte à côte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Cela donne l'impression que vous commencez avec une qualité habile et qu'ensuite vous l'abandonnez pour passer à la suivante. En réalité, le processus consiste plus à rassembler toutes ces qualités ensemble et à s'orienter ensuite en direction de l'une ou de l'autre en fonction de sa pertinence, afin que l'esprit puisse conserver son équilibre. C'est ce principe qui s'applique aux attitudes sublimes. La bienveillance incommensurable, la compassion incommensurable, l'appréciation incommensurable et l'équanimité incommensurable. Nous commençons avec la bienveillance, non pas parce que c'est la qualité la moins élevée, mais parce que c'est la plus essentielle, la plus fondamentale. À partir d'elle, vous pouvez développer les autres. La compassion, l'appréciation ou la joie empathique, et finalement l'équanimité. Un esprit équilibré est un esprit qui sait quand il faut insister sur l'une de ses qualités. Il ne s'agit pas d'abandonner la première pour passer à la deuxième ou à la quatrième. Vous devez essayer de conserver les quatre sous la main afin de pouvoir utiliser celle qui est pertinente dans la situation qui se présente à vous. La bienveillance est à la base de tout. En fait, vous pouvez dire qu'elle est à la base de l'ensemble de la pratique. Si nous n'avions pas de bienveillance envers nous-mêmes et les gens autour de nous, les quatre nobles vérités n'auraient aucun sens en tant qu'enseignement important. C'est parce que nous voulons voir la souffrance cesser, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens autour de nous, que nous voulons suivre la voie qui mène à la fin de la souffrance. Nous avons envie de découvrir ce qu'est la souffrance, comment nous pouvons abandonner ses causes et aider à réaliser sa cessation. Donc, tout commence avec la bienveillance. Pensez-y. Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un d'autre souffre? Vous pouvez penser aux choses mauvaises ou cruelles qu'ils ont faites dans le passé, mais même dans ce cas, pourquoi voudriez-vous qu'ils souffrent? Pour en tirer une leçon? Eh bien, ils vont apprendre la leçon parce que le principe du karma va s'en charger. C'est la raison pour laquelle il y a l'enseignement sur l'équanimité. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre pour le glaive vengeur du Seigneur pour vous assurer que chacun reçoit la punition qu'il mérite. Votre seul travail consiste à vous assurer que votre bienveillance ne comporte pas de limites. Lorsque des gens ont fait des choses horribles, vous n'êtes pas obligé d'approuver leur comportement. Ce n'est pas ce que signifie la bienveillance. La bienveillance signifie que vous ne souhaitez de mal à personne. Si quelqu'un fait des choses horribles, vous avez tout à fait le droit de l'arrêter, si vous le pouvez. Après tout, en faisant des choses horribles, il crée du mauvais karma, plus de souffrance pour lui-même. Assurez-vous simplement que vous ne lui faites pas de mal en essayant de l'arrêter. Donc, essayez de rendre votre bienveillance illimitée ou, comme le disent les textes, incommensurable. Prenez ceci comme un défi. Lorsque vous répandez des pensées de bienveillance, essayez de voir où se trouvent vos limites. Ne faites pas seulement semblant de ressentir une bienveillance incommensurable. Au début, la bienveillance de chacun d'entre nous a des limites. Quelles sont les limites de la vôtre? Après avoir répandu des pensées de bienveillance en direction des personnes pour lesquelles vous en éprouvez déjà, vos amis, votre famille, commencez à en répandre en direction des personnes pour lesquelles vous n'en éprouvez pas spontanément. Votre cœur rechigne-t-il lorsque vous essayez de répandre la bienveillance en direction des gens que vous n'aimez pas? Arrêtez-vous et demandez-lui pourquoi. Que gagneriez-vous à les voir souffrir? Regardez cette petite voix à l'intérieur de vous qui est contrariée par leur bonheur. Est-ce une voix à laquelle vous voulez vous identifier? Pouvez-vous abandonner cette attitude? C'est là où la pratique du développement de la bienveillance a vraiment un effet sur l'esprit, lorsqu'elle vous force à remettre en cause tout ce qui est petit ou étroit dans votre cœur. Si vous pensez à la bienveillance comme un gros nuage rose de barbe à papa qui recouvre le monde dans toutes les directions, ce que vous faites alors en réalité, c'est masquer votre véritable attitude, ce qui est absolument inutile pour obtenir la vision pénétrante dans l'esprit. La bienveillance doit être comprise comme un défi, comme une manière de rechercher et d'assumer vos attitudes mesquines, une à une, afin de pouvoir les examiner, les déraciner et les relâcher vraiment. C'est seulement lorsque vous travaillez sur des détails comme ceux-là que la bienveillance devient de plus en plus illimitée. C'est alors que votre compassion peut également devenir illimitée. Si vous éprouvez de la bienveillance pour les autres, alors, lorsqu'ils souffrent des effets négatifs de leur mauvais karma, vous ne pouvez pas vous empêcher d'éprouver de la compassion pour eux. Vous voulez que non seulement ils cessent d'éprouver toute forme de douleur et de souffrance, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, mais vous voulez aussi qu'ils arrêtent de faire tout ce qui est susceptible de continuer à les faire souffrir. C'est une partie importante de la compassion. Ce n'est pas simplement un élément de sentimentalité dans votre cœur vis-à-vis des gens qui souffrent. Cela signifie aussi, pour commencer, essayer de trouver un moyen de les aider à arrêter de faire des choses qui les font souffrir. Lorsque vous pouvez les aider, vous appréciez leur bonheur. Vous éprouvez de la sympathie pour le bonheur qu'ils rencontrent. Même dans les cas où les gens font l'expérience d'un bonheur qui n'a rien du tout à voir avec vous, vous appréciez le fait qu'ils font l'expérience du résultat de leurs bonnes actions passées ou de leurs bonnes actions présentes. Vous n'êtes pas contrarié par leur bonheur. Même si vous êtes en concurrence avec eux et qu'ils terminent premier et que vous terminez second et que vous estimez que vous méritiez vraiment d'être premier. C'est dans un cas comme celui-ci que vous devez pratiquer la joie empathique. Les choses ont un cadre de référence plus vaste que celui dont vous êtes probablement conscient. Remarquez que dans tous les cas, il arrive un moment où vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a des cas où vous voulez aider quelqu'un et où vous ne le pouvez pas, ou bien des cas où vous préféreriez pouvoir profiter du bonheur que quelqu'un d'autre éprouve. C'est là où vous devez développer l'équanimité. Remarquez que l'enseignement sur l'équanimité est une réflexion sur le principe du karma. Parmi les quatre champs que nous avons pour les attitudes sublimes, c'est le seul qui est simplement l'affirmation d'un fait. Les autres disent que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient libres du stress et de la douleur, qu'ils ne soient pas privés de leur prospérité présente. Les trois premiers sont des souhaits, des attitudes, des choses que vous voudriez voir se produire. Que. Le quatrième est simplement une réflexion sur la manière dont les choses sont. Tous les êtres vivants sont les propriétaires de leurs actions, les héritiers de leurs actions. Quoi qu'ils fassent, de bien ou de mal, de cela ils hériteront. Cette réflexion apparaît en réalité dans de nombreux contextes différents. Dans les cinq réflexions, la réflexion sur le karma est celle qui donne espoir. Vous vous rendez compte que vous êtes responsable de vos actions. Vous n'êtes pas simplement une victime du destin ou des astres ou d'un être quelconque qui agit à travers vous. Vous êtes celui qui effectue les choix. C'est ce qui vous donne espoir. Mais c'est un espoir associé à la vigilance. Vous avez le pouvoir de faire du bien à travers vos actions, mais aussi le pouvoir de faire du mal. Le principe du karma est une épée à double tranchant. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez l'utiliser pour trancher votre propre gorge. C'est la raison pour laquelle le Bouddha recommande de réfléchir au principe du karma comme moyen d'inspirer la vigilance. Si l'on va un peu plus loin, l'universalité du principe du karma est une réflexion qui permet de développer l'équanimité à la fois envers vous-même et envers les autres. En d'autres termes, vous rencontrez dans votre vie des incidents qui vous empêchent d'obtenir le bonheur auquel vous aspirez. Il y a là un blocage karmique. Donc, vous apprenez à accepter cela avec équanimité. Cela ne signifie pas que vous abandonnez et que vous devenez totalement passif et indifférent. Vous recherchez les domaines où vos actions peuvent avoir un effet. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie à vous cogner la tête contre les murs dans des domaines où vous ne pouvez rien changer. Focalisez-vous sur les domaines où vous pouvez faire quelque chose. Donc, l'équanimité n'est pas l'absence d'espoir. Ce n'est pas l'indifférence passive. Elle est là pour réorienter votre énergie dans la bonne direction, vers les domaines où vous pouvez agir pour votre propre bien-être et pour le bien-être des autres. Les réflexions sur le karma sont aussi utilisées comme fondement pour développer la sagesse et la vision pénétrante. Elles forment la toile de fond de tous les enseignements sur le discernement. La vision pénétrante centrale de l'éveil du Bouddha a été que la douleur et le plaisir sont causés par nos actions. Il y a des actions qui apportent la douleur, des actions qui apportent le plaisir, des actions qui apportent les deux, et puis des actions particulières qui mettent fin à l'action, fin à la souffrance et qui apportent le bonheur total. Cela, c'est l'essence du discernement du Bouddha. Donc, c'est une combinaison intéressante. L'équanimité, l'espoir, la vigilance, le discernement. Toutes ces choses vont ensemble. Elles tournent autour de la même réflexion. Je suis le propriétaire de mes actions. Tous les êtres sont les propriétaires de leurs actions. En d'autres termes, tous les êtres sont responsables de ce qu'ils font. Ajahn Suwat a donné un jour un enseignement sur cette réflexion en se focalisant sur la différence entre les enseignements sur le pas-soi et cette affirmation. La forme, les sensations, les perceptions, les constructions mentales, la conscience, tout ceci n'est pas le soi. Mais nous sommes les propriétaires de nos actions. Pensez à cela, a-t-il dit. En d'autres termes, ne vous attachez pas au résultat de vos actions. Attachez-vous au fait que vous prenez des décisions en ce moment même, tout le temps. Une fois prise, la décision est transférée dans un cercle plus vaste de causes et d'effets indépendants de votre volonté. Mais vous avez la possibilité de prendre à nouveau une décision le moment d'après, et le moment d'après, et ainsi de suite. Focalisez-vous sur cela. Ne devenez pas prisonnier des résultats des actions passées. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour rendre vos actions présentes habiles. C'est le cœur de l'enseignement. Nous sommes les propriétaires de nos actions. Nous sommes les héritiers de nos actions. Nous allons recevoir les résultats de ces actions. Donc, agissez de manière à recevoir les résultats que vous souhaitez recevoir. Soyez concernés par cela. C'est ce que signifie le mot Pali Otapa. On peut le traduire soit par peur des résultats de vos actions, soit par préoccupation pour les résultats de vos actions. De quelque manière que vous le traduisiez, cela signifie que vous n'êtes pas apathique. Vous savez que, quoi que vous fassiez, cela va produire des résultats. Là encore, la qualité du discernement intervient. Nombre de choses que nous aimons faire donnent de mauvais résultats, et il y a des choses que nous n'aimons pas faire et qui donnent de bons résultats. Le Bouddha a dit que la preuve que nous sommes une personne idiote ou une personne sage réside dans la façon dont nous gérons des situations comme celle-ci. En d'autres termes, c'est là où la qualité du discernement révèle réellement sa valeur. Vous pouvez parler du discernement, vous pouvez décrire les trois caractéristiques, les cinq khandhas, la sphère des six sens, la co-apparition en dépendance, la vacuité, tous ces concepts merveilleux. Vous pouvez en parler. Mais s'ils ne peuvent pas vous aider à prendre la bonne décision lorsque vous êtes en face d'une situation difficile, votre discernement est inutile. Le discernement utile est celui qui vous permet de vous persuader de ne pas faire des choses que vous aimeriez faire, mais dont vous savez qu'elles donneront de mauvais résultats, ou bien de vous convaincre de faire des choses que vous n'aimez pas faire, mais qui donneraient de bons résultats. C'est là où le discernement montre ce qu'il peut faire. Nous naissons de nos actions. Nos actions sont la source de tout ce dont nous faisons l'expérience. Si vous voulez que vos expériences soient bonnes, focalisez-vous sur leur source. Si vous n'aimez pas le type d'expérience que vous faites, retournez-vous et focalisez-vous à nouveau sur la source. C'est toujours ici même, dans le moment présent. Les enseignements du Bouddha sur le temps sont intéressants en ce que, même s'il parle du temps, il ne parle pas d'un point de départ dans le temps. Le point de départ de notre expérience se trouve ici même, dans le moment présent. Tout surgit d'ici même. Donc, au lieu d'essayer de remonter aux causes premières des choses à un moment reculé du passé, le Bouddha vous fait rechercher les causes premières ici et maintenant. Explorez profondément le domaine de l'esprit où l'intention, l'attention, et la perception s'oppose, car c'est le point à partir duquel tout naît. Nous sommes liés à travers nos actions. Les liens que nous avons au cours de notre vie avec différentes personnes sont créés par nos actions. des choses que nous avons faites ensemble avec d'autres personnes ou à d'autres personnes ou encore pour d'autres personnes. Celles-ci créent les liens que nous entretenons avec les autres autour de nous. L'interrelation est un enseignement très populaire dans le bouddhisme, surtout de nos jours, mais il est amusant de constater que les gens aiment parler de l'interrelation sans mentionner l'enseignement à propos du karma. Ils se tournent vers la co-apparition en dépendance comme un modèle pour l'interrelation. Ce réseau de liens où un facteur ne peut exister sans de nombreux autres facteurs, mais ils négligent de prendre en compte le fait que la co-apparition en dépendance est un enseignement sur la manière dont l'ignorance est liée à la souffrance, à la manière dont le désir ardent est lié à la souffrance. C'est le type de dépendance que vous voulez trancher, pas celui que vous voulez fêter. La dépendance à travers le karma se fait à double sens. Les liens peuvent être bons ou ils peuvent être mauvais. Donc, vous voulez favoriser les bons. Et encore une fois, où regardez-vous ? Vous regardez ce que vous faites ici et maintenant. Comment vous comportez-vous vis-à-vis des autres ? Comment les traitez-vous ? C'est ce qui crée les relations dont vous pourrez profiter ou celles auxquelles vous allez être scotché maintenant et dans le futur. Donc, choisissez vos actions prudemment. Nos actions sont nos arbitres. Nos actions décident de nos vies. En d'autres termes, il n'y a pas de juge là-haut, quelque part dans le ciel, assis sur un grand trône, qui nous juge. Nous jugeons le type de vie que nous voulons avoir par la manière dont nous agissons, ce qui est à la fois une manière de nous assumer et aussi quelque chose d'un peu effrayant. Pensez au nombre de fois où vous avez agi pour des motifs malhabiles. Pensez aux motifs malhabiles qui continuent à rôder dans votre esprit et qui pourraient constituer la base de futures actions malhabiles. Pensez-y bien. Cela signifie qu'il y a du travail à faire, non seulement pour échapper aux actions malhabiles, mais aussi pour encourager les actions habiles. C'est ici que l'espoir intervient. Même s'il se peut que nous souffrions dans nos vies, il existe une porte de sortie à travers nos propres actions. Nous ne sommes pas obligés de rester assis en attendant que quelqu'un d'autre arrive et nous sauve. Nous ne sommes pas les victimes du destin. Nous pouvons faire des choix, nous pouvons hiérarchiser nos priorités afin de pouvoir réorganiser nos vies dans une direction positive à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est la raison pour laquelle nous méditons, parce que la méditation crée de bonnes qualités, des qualités habiles dans l'esprit. Sati, l'attitude d'alerte, la concentration, le discernement, la persistance, la véracité, la persévérance. Lorsque nous travaillons sur ces qualités, lorsque nous les mettons en pratique, elles se renforcent et deviennent de plus en plus les arbitres sages de nos vies, orientant nos vies dans la direction où nous voulons vraiment aller. Ensuite, la réflexion finale se développe à partir de « Quoi que nous fassions de bien ou de mal, de cela nous hériterons. » C'est un rappel à la vigilance, un rappel que nous voulons vraiment agir en fonction de nos bonnes impulsions, de nos intentions habiles. Nous voulons développer dans notre esprit les qualités qui favoriseront ces intentions habiles, parce que ce sont ces choses-là qui vont vraiment avoir de l'effet. Ces enseignements encouragent l'équanimité en nous rappelant d'être équanimes vis-à-vis de nos actions passées, vis-à-vis des résultats de nos actions passées. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer parce qu'elles ont déjà été faites. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais les enseignements favorisent l'espoir, en ce sens que nous pouvons changer ce que nous faisons ici et maintenant. Nous avons cette possibilité de façonner nos vies, de les orienter dans une meilleure direction. C'est dans cet équilibre entre l'équanimité, la vigilance et l'espoir, en apprenant comment faire bon usage du principe du karma, qu'intervient le discernement. Et les enseignements sur le karma ont acquis une mauvaise réputation, principalement parce qu'ils ont été mutilés, transformés en une caricature simpliste, soit fataliste, soit du type tac au tac. Mais si vous comprenez la complexité ainsi que le but de l'enseignement, vous commencez à vous rendre compte que ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une excuse pour justifier la souffrance que les autres subissent ou notre indifférence à leur souffrance. Lorsque vous comprenez vraiment le fonctionnement du karma, vous voyez la souffrance des autres comme une occasion de les aider. Vous ne savez pas combien de temps leur karma de souffrance va encore durer. Cela ne serait-il pas une bonne chose si vous étiez l'agent qui les aide à mettre fin à leur souffrance? Mettez-vous à leur place. N'aimeriez-vous pas que quelqu'un vienne vous aider? Et un jour, il se peut vraiment que vous vous retrouviez à leur place. Après tout, comme le Bouddha l'a dit, vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation. Et si vous ne sortez pas du cycle des renaissances, vous vous y retrouverez probablement de nouveau. Le karma n'est pas un enseignement destiné à vous faire vous sentir supérieur aux autres. On ne sait jamais. Peut-être que les résultats de leur mauvais karma passé les rattrapent plus vite que les résultats de votre propre mauvais karma passé, et il se peut qu'un jour, vous vous retrouviez dans une situation similaire à la leur, voire pire. Donc, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Et l'enseignement sur le karma n'est pas conçu pour que vous vous laissiez aller. S'il ne devait avoir qu'un seul but, ce serait tout simplement le contraire. Il est destiné à vous rendre non complaisant vis-à-vis de vous-même. J'ai lu un jour quelqu'un qui disait que le 11 septembre avait fait voler en éclats sa bulle de bouddhiste complaisant. Eh bien, cette expression bouddhiste complaisant est un oxymore. Tout l'intérêt de suivre le Dhamma, c'est qu'il vous enseigne à ne pas être complaisant. Aussi longtemps qu'il y a de la souffrance dans votre cœur, il y a du travail à faire. Donc, d'un côté, le principe du karma vous rend vigilant en vous rappelant que vous avez du travail à faire. Mais cela signifie aussi qu'il y a une manière de traiter la souffrance afin que vous puissiez la dépasser. C'est là que l'espoir réside. Si vous comprenez comment utiliser l'enseignement à propos du karma, vous voyez combien il est utile, combien il est pertinent pour la méditation que nous faisons en ce moment même. Le facteur primordial que vous voulez creuser et découvrir dans votre méditation est simplement celui-là, le karma, le facteur de l'intention. Observez pour voir comment il se meut. Voyez comment vous pouvez le rendre plus habile. Voyez comment vous pouvez perfectionner ce facteur afin que non seulement il vous emmène vers des lieux plus agréables dans l'espace et le temps, mais aussi, lorsque vous deviendrez vraiment habile, hors de l'espace et du temps, à la fin du karma, jusqu'au point où il n'y a plus de travail à faire. C'est l'une des descriptions d'un arahant, katang karaniyang, quelqu'un qui a effectué la tâche, qui a fait ce qu'il y avait à faire. Le fardeau est déposé à terre. Comprendre le principe du karma et l'utiliser de façon adéquate, c'est ce qui rend tout cela possible.